Philosophie du vivant, Père Philippe, 20 mars 1984, Saint-Joseph.
Je lis cette question, si vous voulez, puisque pourriez-vous expliciter les liens qui existent entre l'imagination et les cinq sens? Quand on parle d'une image, on pense au sens de la vue. Une telle association, le premier sens, c'est évident que le sens fantasia, c'est lié à la vue. Le mot grec lui-même, ça c'est très... Et l'image, c'est la représentation. Et c'est lié. Parce que ordinairement, c'est ça qu'il y a de tout à fait particulier, on a une imagination ou visuelle, ou tactile, ou auditive, ou, pour les gourmets, on aurait allé du côté du goût et l'odorat. Donc, quand on parle d'une image, on pense au sens de la vue. Une telle association semble avoir un fondement objectif, puisque la vue apparaît comme une connaissance d'un tout, en un sens donc synthétique. Oui, c'est parce que la vue est normalement plus développée chez les hommes, surtout dans notre culture moderne. Dans notre culture moderne, alors ça c'est très net, c'est ce qu'on dit, il n'y a plus qu'un seul sens qui se développe, c'est la vue. Et l'ouïe est en perte de vitesse. L'odorat, on n'en parle pas. Le goût également, parce qu'on mange des choses qui n'ont plus aucun goût. Les poires synthétiques, hein, ça n'a plus aucun goût. Et les pommes qui sont seules, ça n'a plus aucun goût. C'est plus que c'est qu'un fruit aujourd'hui. C'est plus que c'est qu'un légume, on ne sait plus. Quoi. C'est plus que c'est que de la viande. C'est, tout est synthétique. Donc le goût disparaît. C'est sûr. Ah non, nos sens sont en perte de vitesse, ça, c'est évident. Il n'y a que les Africains qui ont encore des sens. Parce que grâce à la forêt équatoriale, ils ont encore des sensations qui sont à l'état pur. Mais ils doivent se dire que vraiment l'Europe, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus que la vue. Il n'y a plus que ça. C'est très vrai, quand on va en Afrique, on sent ça très fort. On sent très fort que, de fait, une civilisation qui est plus fondamentale à garder plus le sens des sens. Et nous, il n'y a plus que la vision, plus que la vue. Alors, il y a quelque chose de vrai, c'est que la vue a cette possibilité d'avoir l'horizon. C'est vrai qu'il y a un certain sens synthétique dans la vue, mais l'ouïe a aussi un sens synthétique. L'ouïe est très synthétique. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que c'est pas... Je crois que c'est plus parce que, de fait... Nous avons une culture qui développe énormément le point de vue visuel de la lumière, et que c'est ça qui est le plus développé. Dans le sens, ce sont des articles ordinairement, c'est toujours très intéressant, du reste ça fait partie de la culture ça, et de voir les mutations de la culture, une culture qui est liée aux cinq sens, qui est une culture très riche, et une culture qui diminue dans sa force, et où il n'y a plus que la vision. Alors, qui implique un recul par rapport à l'objet, ou en quel sens l'image fait-elle la synthèse des différentes qualités, sensibles, goût, odeur, et ainsi de suite. Alors, donc il y a un très gros problème, je suis tout à fait d'accord. On en avait touché un tout petit peu, mais forcément, on n'a pas regardé tout le point de vue de l'imagination. Je vous ai dit que l'imagination, c'est la connaissance sensible seconde. Je reprends ça, ça vaut toujours la peine du reste. Vous avez les cinq sens. Vous avez le sens sous, comme on dit, dans le sens aristotélicien. Le sens commun. Le sens commun, c'est ce qui fait le lien entre les cinq sens. Le sens commun. Et le sens commun par essence, parce que le sens commun, comme on l'entend ordinairement, c'est pas ça du tout. C'est le sens commun, c'est ce qui va harmoniser les cinq sens. Et à partir du sens commun, de cette harmonie des cinq sens, nous avons l'imagination. L'imagination, c'est la faculté du mouvement, c'est une faculté qui est en moi, parce que elle reçoit son objet des sensations et du sens commun. Elle opère une connaissance. La vie dira, elle opère une connaissance abstractive. Très curieux. Saint Thomas dit jamais. Avicenne dit qu'il y a déjà une abstraction pour les sens, une seconde abstraction pour la connaissance imaginative, une troisième abstraction pour l'intelligence. C'est assez joli du reste. J'avoue que j'aime assez bien de dire ça, parce que ça montre que l'intentionnalité des sens externes, l'intentionnalité de l'imaginaire, qui est le niveau de la connaissance, n'est pas la réalité. Donc, il y a une abstraction. C'est évident. Et il y a un passage d'abstraction plus loin des sensations qui touchent le réel sensible. La réalité sensible, multiple et diverse, et puis l'image. Alors, je vous avais dit cette chose que je crois très importante. Je sais très bien que c'est assez délicat. Quand il s'agit des sens, des sensations, on distingue les sensibles propres, les sensibles communs. Et les sensibles communs vont avoir un lien très particulier avec le sens commun. Ça, c'est sûr. Puisque c'est ce qui se trouve, le commun, le quelque chose de commun qui se retrouvera à travers les cinq sensations différentes. Et alors, nous aurons les cinq sensibles communs. Pour ça, il faut connaître les sensibles propres et les sensibles communs. Les sensibles propres, c'est les sensibles saisis uniquement par un sens. Et les sensibles communs, c'est saisi par les divers sens. Normalement, quand il s'agit des sensations, le sens commun, les sensibles communs modifient les sensibles propres. Mais les sensibles propres, c'est ce qu'il y a de plus actuel. Les sensibles communs ne sont jamais saisis comme tels. Ils sont toujours saisis à travers les sensibles propres. Mais les sensibles communs étant saisis par les sensibles propres, les sensibles communs ont donc quelque chose de particulier s'ils sont saisis par tel ou tel sens. Le mouvement n'est pas saisi de la même manière par la vue, par le toucher, par l'ouïe. Et c'est toujours le mouvement. Et il est saisi différemment. Oui. Le mouvement, c'est très très bien dans le toucher. Quand vous êtes en face de quelque chose qui tourne à toute vitesse, vous mettez le pied dessus, faites attention. Parce que ça y est, vous êtes là. Ça vient vite, quelque chose de... Et puis, l'avion qui passe. Le mouvement. Le rythme de la musique. Le mouvement. Puis l'avion. C'est différent. Les sensibles communs sont donc saisis différemment à travers les sensibles propres. Ils sont toujours saisis à travers les sensibles propres. C'est le propre des sensations externes. C'est toujours saisi à travers. Et c'est pour ça que le sens commun est présent dans les diverses sensations. J'ai pas quelque chose de séparé. C'est la différence avec l'imagination. Le sens commun, il est à l'intérieur des cinq sensations. Je sais bien que ça pose des problèmes par rapport à l'exégèse de certains textes d'Aristote, mais ça n'a pas tellement d'importance ici. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de saisir la réalité profonde. Il n'y a pas, vous voyez, un sens commun séparé des sensations. Et le sens commun permet aux sensations d'avoir une conscience. Parce que je saisis un rapport. Je fais un rapport entre ce que je vois et ce que je touche. Ce que je goûte et ce que je touche. Donc on saisit des rapports. Et là, ça, c'est le sens commun. Le sens commun à l'intérieur des diverses sensations. Donc il est présent à l'intérieur des diverses sensations. À partir de là, il y aura un mouvement particulier qui sera l'imagination. Alors, l'imagination produit une image, une icône. Je crois que nous pouvons dire que nous avons dans l'imagination diverses demeures. Il n'y a qu'une seule faculté, mais il y a diverses humeurs. Chez chacun d'entre nous, nous avons une imagination plus ou moins visuelle, une imagination plus ou moins tactile. Mais c'est toujours l'imagination. Donc, il y a des modalités, comme il y a des modalités des sens communs qui sont saisis à travers les sens propres, de même l'imagination n'est pas toujours la même. Et ceci, ça se voit très bien dans les rêves. Les rêves, c'est le domaine idéal de l'imaginaire. Les gens qui mettent l'imagination dessus tout, bien, vous vivez surtout quand vous avez des rêves. Merveilleux, les rêves. Vous n'êtes pas obligé d'assister à des cours. Et c'est vous-même qui vous donnez le cours. Et vous laissez le prendre. Vous avez un 6 mois gratuit. C'est extraordinaire. Hein. Ça passe avec une rapidité. C'est toujours quelque chose. Bien, ça, c'est les rêves. C'est les images. Alors, on a des rêves qui sont plus ou moins qualitatif. Pour chacun d'entre nous, vous voyez, les rêves ont des notes différentes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier en l'image ? Ce que je vous disais, l'image est le fruit de l'imagination. Je crois que nous pouvons dire que dans l'image, les sensibles communs passent en premier et les sensibles propres en second lieu. Donc, il y a une inversion. Vous savez qu'à étudier une image, quand vous l'image du petit chat, qu'est-ce que vous voyez premièrement? Ordinairement, l'image du petit chat, c'est la figura. Les deux petites oreilles. Ou la moustache. Je pense que c'est ça. Ou les griffes. C'est ça que vous voyez en premier lieu. C'est tout de suite. Et quand vous faites une caricature de chat, ça vient complètement. Donc, c'est le sens, la figura. Ou c'est le mouvement. C'est très très bête. C'est pas les sensibles propres qu'on met dans la caricature, c'est les sensibles communs qu'on met en pleine lumière. La démarche de quelqu'un, ou bien l'immobilité de quelqu'un. Tout est pris. Mais le monde, c'est les sensibles. Parce que c'est les sensibles communs qu'on manœuvre le mieux. C'est malléable, les sensibles communs. Les sensibles communs sont liés à la quantité, c'est divisible, c'est malléable. Vous en faites beaucoup plus tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez. Or, l'imagination fait des synthèses des sensibles. Il n'y a pas de synthèse des sensibles propres. Impossible. Tandis qu'il y a synthèse des sensibles communs. De sorte que l'image est premièrement les sensibles communs. Et les sensibles propres viennent s'ajouter. Donc, il y a une inversion. Très très curieuse. Et c'est très important, je crois, que ça devrait être très important pour étudier alors la différence entre l'analogie et la dialectique. L'analogie est dans le sens des sensibles propres, la dialectique est dans la lumière des sensibles communs. Vous avez là deux développements tout à fait différents. Et ça, c'est très important de voir tout de suite. Le passage entre les deux, de voir comment l'image donne le primat des sensibles communs. Parce que la seule synthèse possible au niveau des sensibles, c'est les sensibles communs. Vous ne pouvez pas faire de synthèse au niveau des sensibles propres. Les sensibles propres sont indivisibles. Alors, on ne peut pas en faire la synthèse. Alors, vous comprenez que dans les sensations, les sensibles propres actuent, et les sensibles communs conditionnent. Dans l'image, le conditionnement devient la détermination. Ce qui conditionne normalement devient proprement la spécification. Là, ça explique des quantités de choses. C'est très intéressant de voir ça. De comprendre ce que c'est que l'image, le sensible commun devient premier. C'est lui qui spécifie l'image. Et le sensible propre est relatif. Il est second. Et c'est ce qui explique comment on peut, voyez, faire des associations imaginatives. Par les sensibles communs, vous faites des associations et vous pouvez comprendre comment une image en appelle une autre et comment il peut y avoir tout un système. Le système, il est lié par les sensibles communs. Tandis que les sensibles propres sont indivisibles et parce qu'ils sont indivisibles, vous ne pouvez plus avoir qu'une connaissance analogique. Là, la grande différence entre les deux. Et ça, c'est très important à saisir, ça. Alors, je veux bien, et je crois que c'est très vrai, que l'imagination de chacun d'entre nous dépend du développement particulier des différents sens. L'imagination d'un aveugle, l'imagination d'un aveugle de naissance n'est pas du tout la même que l'imagination de quelqu'un qui voit. Et plus la civilisation devient une civilisation de l'œil et de la vision, plus les aveugles sont mis en retrait. C'est très curieux. Il y a une distance plus grande. Ils ont une imagination, mais comme ils n'ont pas de sensation visuelle, ils ont une imagination qui sera avant tout auditive. Moi, ça m'a frappé beaucoup avec le père Duhaut, qui, au point de vue vision, avait une vision très faible, et alors avait développé énormément sans ouïe. Et son imagination était une imagination auditive, avant tout. Très curieux, c'est les choses qu'on retient, c'est le point de vue du voile. Quand on vit à côté d'un aveugle, c'est ce qu'on voit. Son monde est un monde du son, un monde de musique. C'est tout à fait différent. Certains, vous auriez des gourmets. Très curieux de voir des gens qui me souviens une fois avoir fait comme ça d'autostop avec quelqu'un qui inventait des parfums. C'est très intéressant. Dans toute la conversation, vous parlez sur l'invention du parfum et ce que représentait l'imagination de l'odorat. Il avait développé une imagination de l'odorat, mais puissante, ce qui est très rare. Parce qu'ordinairement, on n'a pas beaucoup d'imagination de l'odorat. En Église, il avait développé son imagination de l'odorat. Et toujours, les images étaient des images d'odorat. Ça revenait tout le temps. On développe comme ça une imagination qui est plus ou moins liée aux différents sens. Mais c'est toujours l'imagination, ça n'a pas de sens, de nom différent. C'est toujours l'image. Et c'est toujours les sensibles communs qui dominent. Parce que les sensibles communs, comme ils sont cinq, ils ont une relation plus ou moins grande avec les sensibles propres des différents sens. Et ça, ce serait intéressant à étudier. Ça n'a pas été étudié, je crois. Je ne crois pas que ça a été étudié, les liens particuliers des cinq sensibles communs. Vous les connaissez bien, les cinq sensibles communs. Tout le monde les connaît. Hein. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui ne les connaît pas? Vous voyez ça? Alors, je les renomme pour que vous les connaissiez par cœur. Les sensibles communs, c'est la grandeur, le nom, le mouvement, le repos, la couleur. Vous n'avez qu'à réfléchir sur vos cauchemars. Vos cauchemars sont toujours... Il y a des cauchemars de mouvement. Vous dégringolez. Petit tonneau, vous dégringolez, puis vous arrêtez, vous n'allez pas... Voilà. Puis alors, il y a aussi le cauchemar du repos. On est enlisé. Et le gros chien arrive. Lui, il a le mouvement. Et vous êtes enlisé, complètement enlisé. Vous êtes immobilisé. Alors, le repos de moi, ça, c'est constant. C'est constamment ça. Ou bien la grandeur du monde. Vous êtes perdu dans le monde. Et les cauchemars de Saint-Jean. On est perdu dans le monde. Ça, c'est affolant. On est perdu dans la grandeur. D'avoir des cauchemars qui disent, une sabre. Après avoir jeté l'eau bénite à travers tout, on a des cauchemars. De là, vous avez la figura. Vous avez la figura. La figura, qui est quelque chose de particulier. C'est typiquement. Alors, est-ce que chacun de ces cinq est relié à un caractère particulier? Ils sont communs. Mais être commun ne veut pas dire que c'est indifférent à l'égard de chaque sens. Je crois, alors ça serait intéressant d'étudier, je crois que parmi ces cinq sens communs, il y a un lien particulier avec la vue, avec l'ouïe, avec l'odorat, le goût. La figura, c'est évidemment la vision. Donc l'imagination, quand la vision est très développée chez quelqu'un, son imagination est visuelle, et donc c'est la figura qui donne. Alors vous aurez des gens de caricature extraordinaires. S'ils ont tout de suite, quand ils voient une tête, ils voient tout de suite ce que les autres ne voient pas, parce que les autres regardent la tête. Et là, ils verront tout de suite la figura, ils mettront une figura qu'ils auront organisée comme ils veulent. Ils disent, ah, c'est évident. Donc ils mettront en lumière quelque chose. Et c'est un art, la caricature. Hein. C'est un art de très grande imagination. Très imaginatif pour faire de bonnes caricatures. Mais c'est un art, et c'est la vision, cette figura. Alors, le mouvement, c'est sans doute, je crois, lui. Je crois. La grandeur, le toucher. C'est le sens de la grandeur, le toucher. Alors, maintenant, vous pouvez faire regarder les autres, qui sont toujours moins déterminés, le goût d'odorat. Alors, est-ce que l'odorat, c'est du côté du mouvement ou de la fixité du mouvement? Et le goût, c'est la question du nombre. Ça, je crois que le goût, c'est pas du tout l'odorat. Tandis que le repos, vous voyez, l'odorat est lié à la finalité, et le repos est lié à la finalité. Toujours. Il y a un lien entre la finalité et le repos. C'est-à-dire qu'on dit que la contemplation est un repos, un saint repos, mais c'est la finalité. Dès que le grave touche son lieu, il se repose. C'est pour ça que c'est lié à l'odorat. Il y a des liens particuliers, c'est en ce sens-là qu'on pourrait retrouver, vous voyez, dans les sensibles propres, parmi les rêves. Ce serait très intéressant de voir qu'il y a des rêves qui développent plus ou moins, surtout dans les cauchemars, hein, qui développent plus ou moins un des sensibles communs. Et ce sensible commun nous montre, par le fait même, la manière dont vous captez la réalité. Parce que vous captez la réalité par la vision, vous captez la réalité par le toucher, vous captez la réalité, chacun d'entre nous, ce qui fait qu'on a tous une vision un peu subjective, différente. Il y a des gens qui ont la phobie de la grandeur. Il y a des gens qui ont la phobie du repos. Il faut que tout bouge, hein, tout le temps. Il faut que ça change, autrement, on est des idiots. C'est ça. Ils n'ont aucun sens de la finalité. Quand un chef d'État dit qu'il faut tout changer, il n'a aucun sens de la finalité. Et c'est visible. Mais alors, à ce moment-là, on comprend très bien que la finalité disparaît. Bon, et ainsi de suite. Il faut réfléchir sur ces points de vue-là parce que c'est intéressant, ça. C'est la connaissance humaine dans son soubassement très simple, dans son soubassement foncier et qui nous aide à comprendre ce que représente le point de vue de l'image. Parce que l'image, ça joue un rôle très très important, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Les hebdomadaires se vendent en fonction des images. Et c'est sûr, tous les gens vous le disent, ça. Les hebdomadaires se vendent pas en fonction des textes, au nombre du tout. C'est plus la pensée qui se vend, c'est l'image. Faites-vous photographe, ça vaut mieux que d'être philosophe. Ah ça, oui, c'est beaucoup plus profitable, au point de vue de la communication. Oui, il faudrait faire ici un atelier audiovisuel, n'est-ce pas, pour transformer toute la métaphysique en audiovisuel. Alors à ce moment-là, vous aurez quelque chose qui pourra être comme ça. Vous faites des photos de la substance. Je ne sais pas si ça apparaît comme un champignon, qui monte, c'est ce truc. La photo de l'acte. C'est l'éclair, sans doute, hein. C'est quelque chose comme ça. Non, le tonnerre, c'est plus la substance. Hein. C'est alors, il y a des... Et ainsi de suite, vous voyez Plus nous sommes en face d'une pensée spéculative, plus on est loin des sens. Et en même temps, plus on a besoin de revenir toujours au sens. Parce que la philosophie peut être un sevrage, surtout la philosophie première, un sevrage des sensations. Et là, ça devient grave. Parce que s'il n'y a pas replongé tout le temps, et c'est pour ça qu'on a besoin de la compensation de l'art. L'art nous remet dans le sensible. Alors, l'art de remettre en sensible fait une compensation énorme de la philosophie première, comme l'éthique fait une compensation du côté action. Mais je crois qu'il faut toujours, plus on est dans la spéculation, plus il faut que le sensible soit présent. Autrement, on risque très très vite de cérébraliser. Parce que la cérébralisation, c'est justement la coupure du sensible. Il y a un sevrage nécessaire, parce qu'il y a l'abstraction. Mais il y a un sevrage qui doit être mesuré. Alors, on avait dit, la vision implique la synthèse. Ça implique la synthèse, toujours par les sensibles communs. Vous voyez, tous les sensibles communs permettent la synthèse. Alors la figura, c'est très bien que la figura par essence est une synthèse, c'est un tout. Les autres sont des possibilités de synthèse. Alors, dernière question. L'intellect agent ne révèle-t-il pas quelque chose du sénovéré de l'intelligence, laquelle n'est pas un simple miroir, mais se meut dans l'acte de connaissance? Pourquoi alors remplacer l'étude en critique plutôt qu'en philosophie du vivant? C'est très vrai que l'intellect agent exprime le sénovéré de l'intelligence. C'est placé en critique parce que c'est les arcanes et que la philosophie du vivant regarde avant tout le point de vue de l'opération vitale immédiate, telle que je peux la saisir dans ma conscience. L'opération, le philosophe vivant regarde toujours ma conscience que j'ai de que je suis un vivant. Tandis que l'intellect agent, c'est une source cachée. Alors les sources cachées se développent par attitude réflexive. Ça implique un dévoilement. Vous ne saisissez pas tout de suite l'intellect agent, mais vous saisissez ses effets. Mais c'est très vrai que s'il n'y avait pas d'un intellect agent, l'intelligence serait un miroir. Un miroir qui reflèterait admirablement des quantités de choses, mais il n'y aurait plus cette transformation des choses qui se font par la connaissance. Parce que la connaissance, elle est objective, mais elle implique toujours une transformation, une assimilation. Il y a une assimilation à ce niveau, il y a une assimilation à ce niveau, il y a une assimilation au niveau de l'intelligence. Donc, là, maintenant, nous avons l'intelligence. Le passage de l'image à l'intelligence. C'est ça que nous devons essayer de comprendre. Et vous avez un sénovéré partout. Le sénovéré de la sensation, le sénovéré de l'imagination, le sénovéré de l'intelligence. Dans le sénovéré, ce mouvoir de la sensation, qu'est-ce qui domine dans ce sénovéré de l'imagination? L'imagination de la sensation. La sensation me permet d'assimiler des formes des sensibles propres. J'assimile la lumière intentionnellement. C'est vrai. Je suis saisi par ces formes sensibles, je suis pris par cela et je les assimile. Donc je deviens cela. Dans toute connaissance, il y a cela. Et dans la sensation, évidemment, les sensibles propres déterminent les sensations. Tandis que dans l'imagination, qu'est-ce qui détermine l'imagination? Je vous ai dit le conditionnement. C'est le conditionnement qui permet de déterminer ce que c'est qu'une image. Et cette image est donnée dans un mouvement. L'imagination, c'est un mouvement. C'est une connaissance qui est en mouvement. C'est très curieux, ça. C'est pour ça que l'imagination demande tout le temps de se renouveler, tout le temps d'agir. C'est un tourbillon. C'est un tourbillon, le point de vue imaginatif. On sent bien, du reste. Ou bien c'est un enlisement complet et qui arrête tout. Et au fond, normalement, c'est les deux contraires, le mouvement ou le repos. Mais dans l'imagination, vous voyez, l'objet n'est jamais direct. C'est toujours un objet déjà donné qui va spécifier une nouvelle activité, une nouvelle connaissance. L'imaginaire me donne le sens très très grand des sensibles communs et donc du conditionnement. Très curieux ça. Et ça, je crois que c'est très juste au point de vue de l'imagination. J'ai un sens très aigu de ce que représente le conditionnement dans l'imagination, des cinq sensibles propres, des cinq sensibles communs. Alors, l'intelligence. L'intelligence va apparaître en troisième lieu. Et je peux compter aussi un et deux, hein, puisque je peux donner tout le domaine sensible et puis le domaine intelligible. Mais j'aime bien, au point de vue vital, de ponctuer de cette manière. Au point de vue vital, il y a trois moments très nets. Le moment des sensations et du sens commun. Le moment de l'imagination, des rêves et de la mémoire. La mémoire, c'est une imagination au carré. C'est ça, la mémoire. Vous reprenez les choses passées. La mémoire ou la réminiscence. Et puis, l'intelligence qui apparaît. Alors, nous avions dit, la dernière fois, qu'il fallait essayer de comprendre comment mon intelligence se réalisait dans diverses activités. Il y avait une première activité qu'on peut appeler la saisie des déterminations des réalités. On précisera en disant la saisie des quidités. Je saisis certaines déterminations. Ils s'expriment dans le langage par des mots simples. Champ, animal, plante, fleur. C'est des mots simples qui relèvent donc d'une saisie. J'ai ce contact intellectuel. C'est jamais un contact direct, l'intelligence. Hein. C'est toujours un contact par l'intermédiaire des sensations et de l'imagination. Je ne peux pas penser intellectuellement. Je ne peux pas penser intellectuellement sans qu'il y ait une image. Je sais très bien que là, les positions sont diverses. Hein. Parce que pour certains, il y a venant, je ne sais pas d'où, mais du ciel, nécessairement, un don d'image, un don d'idée, les idées illuminées. Descartes. J'ai des idées innées. Donc, ces idées innées ne proviennent pas des sensations. Et pour Descartes, c'est très simple, elles ne proviennent pas des sensations. L'idée d'infini. J'ai une idée innée d'infini. Cette idée innée d'infini, elle ne provient pas des sensations, puisque les sensations sont toujours limitées. Alors, il oublie qu'il y a des sensibles communs, et les sensibles communs, la grandeur, ça peut paraître sans limite. Et donc, c'est d'une certaine manière l'imagination d'infini. Toujours en ajouter, toujours, toujours, toujours. Bon, pour certains, je n'accepte pas cette notion-là. Parce que les idées innées n'expliquent pas le progrès de la science. C'est toujours l'argumentation que je crois qu'on doit prendre. Nous reconnaissons tous qu'il y a un progrès dans la science. Nous reconnaissons tous que nous faisons quand même des progrès dans l'ordre de la pensée. Et que nous pouvons progresser indéfiniment. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de limite du côté du progrès de la pensée. S'il y a un progrès de la pensée, il faut donc qu'il y ait un devenir dans l'intelligence. Un devenir intellectuel. Il y a un devenir intellectuel. Je deviens intelligent. Si je ne suis pas trop bête. Je deviens intelligent. Si je suis dès le point de départ, ça va arriver à un stade. Pas grand chose à faire, hein. Mais normalement, tout être bien né peut devenir intelligent. Il faut s'exercer. Quand on devient vertueux, on devient intelligent. Donc on sait que ça, c'est un progrès du côté de l'intelligence. Si on était en phase d'idées innées, il n'y aurait pas de progrès. Il y aurait plutôt l'inverse. Parce que les idées innées s'usent. Il y aurait une usure. Hein. Alors ces idées innées sont illuminées directement par une lumière qui vient d'en haut. Ces idées innées sont reçues dans mon intelligence. Et alors, à ce moment-là, ces idées innées, je ne cherche pas l'origine puisque ça vient d'en haut. Mais ça n'explique pas le progrès de la connaissance. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter ça. Ça va contraire à une expérience que je suis obligé de reconnaître qu'il y a un progrès dans ma vie intellectuelle. Ce progrès de ma vie intellectuelle veut dire tout simplement que je suis en contact avec la réalité, et en contact avec la réalité, progressivement, je progresse. Je suis donc lié à l'imagination. Ma connaissance, toute connaissance, si fondamentale qu'elle est, provient de l'imagination, du moins, son enracinement dans l'imagination. L'imagination est liée aux sensations, mais l'imagination peut aussi se couper de l'imagination. Donc, je peux avoir un développement intellectuel qui est de l'image comme telle ou de l'image liée aux sensations. Et ça, c'est très important. Au point de vue vital, c'est très important. Il y a deux manières, si vous voulez, de progresser au point de vue intellectuel. Ou je progresse dans une image liée aux sensations, donc j'ai un souci de réalité. Ou au contraire, je progresse en me fermant le plus possible des sensations et en m'enfermant dans mon image. Alors j'ai un progrès à ce moment-là qui peut paraître plus immanent, plus spirituel, mais en réalité, il est beaucoup moins directement relié au réel, puisque c'est les sensibles communs qui vont emporter. Tandis qu'au contraire, si mon intelligence est liée à l'imagination et par l'imagination aux sensations, les sensibles propres redeviennent premiers. Alors là, il y a un problème extrêmement intéressant, au point de vue critique. Est-ce que le jugement d'existence ne peut exister que s'il y a en acte nos sensations qui touchent les sensibles propres? Si je n'ai plus de contact avec les sensibles propres et que je n'ai contact qu'avec les sensibles communs, je ne peux plus poser le jugement d'existence. Là, c'est un point de vue qui est très important et intéressant à noter. Il faut essayer de comprendre. Hein. Du critique. Parce que par les sensibles communs, par les sensibles propres, je suis en contact avec ce qu'il y a de plus actuel au point de vue existence. Tandis que les sensibles communs, c'est divisible, c'est jamais l'actualité absolue. Donc, par les sensibles communs, je ne peux pas avoir contact avec ce qu'il y a de plus actuel dans la réalité. Alors, ce qui est le plus actuel dans la réalité, c'est son essai, son ici. Là, c'est un problème intéressant à noter. Parce que c'est toujours le point de vue de l'intelligence qui est lié à l'imagination et qui est aux sensations. Parce que c'est par le point de vue de l'imagination et par le point de vue des sensations que mon intelligence est en contact avec la réalité sensible. Et qu'elle affirme cette réalité sensible existe. Mais vous voyez, exister, être, n'est saisi que par l'intelligence. Il faut que l'intelligence réfléchisse sur ce qu'elle est en propre pour pouvoir atteindre l'exister. Nos sensations n'atteignent pas l'exister. Notre imagination n'atteint pas l'exister. Notre sensibilité, nos sensations atteignent des déterminations, des sensibles. L'imagination atteint certaines figuras, donc certaines déterminations, mais pas l'exister. L'exister échappe au sensible et ne peut être saisi que par l'intelligence. Ceci aussi, c'est très important, parce que ça vous fait comprendre comment le jugement d'existence peut très bien disparaître. Si je suis uniquement au niveau sensible et au niveau imaginatif, il disparaît. Donc une intelligence qui reste toujours liée à l'imagination, ou une intelligence qui reste toujours liée au sensible propre, ne pourra jamais atteindre vraiment l'être. Elle a un toucher avec l'exister, mais pour atteindre l'exister et le mettre en pleine valeur, il faut que l'intelligence se saisisse. Bon, Alors, essayons de comprendre maintenant. Comme il y a un premier acte d'intelligence dans ce domaine qu'on appelle la préhension. Un second acte qui est le jugement. Un troisième acte le raisonnement. Comprenez bien que ce n'est pas un ordre comme ça qui peut dire nécessairement. Tout raisonnement présuppose des jugements, tout jugement présuppose des appréhensions. Mais il faut se demander s'il peut exister des appréhensions indépendamment du jugement. Ça, c'est une question très délicate. Peut-il exister une appréhension sans jugement ? Peut-il exister des raisonnements sans jugement ? Là, tout le monde est d'accord. Tandis que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que l'appréhension présuppose toujours un jugement. Il n'y a pas d'appréhension sans jugement. Ça, ça a été une grosse erreur de la scolastique, pour bien se dire, à partir de quand ? C'est de séparer l'appréhension du jugement. Et nous retrouvons ça jusqu'à Marie. Je crois que ça explique pourquoi tous ces thomistes ne mettent pas en lumière le jugement d'existence. Donc là, on est en présence de quelque chose de très important au niveau proprement vital. C'est très vrai que si je regarde le langage, je dirais ici je suis en présence de certains mots simples. Donc chat. Ici, je suis en présence d'un langage composé. Le chat existe. Le chat est en moi. Et puis ici, je suis en présence aussi d'une composition encore plus grande. Donc, au niveau du langage, il existe des mots dont la signification est simple. Donc, au niveau du langage, l'appréhension, ou plus exactement, le point de vue de la signification des termes simples existe avant la composition. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Bien que s'il y avait l'appréhension, il n'y aurait pas de langue. Vous auriez A, A, A. Et vous répéteriez ça indéfiniment. Chant. Cheval, chien, homme, la couleur. Blanc, rouge, vert. Simplement des termes. De fait, ces termes n'ont jamais existé seuls. Ces termes ont toujours existé dans un complexe, dans une composition. Donc, même au niveau du langage, je vois que les termes simples ne peuvent pas exister sans les termes, sans les propositions, sans les propositions. Un gosse commence par apprendre les termes simples. Locomotive. TGV. Il apprend les termes simples. C'est comme ça qu'il apprend d'abord. Puis alors après, il les compose. Génétiquement, il y a ça. Mais en réalité, ça c'est du côté abstractif. Donc du côté abstractif, je peux séparer l'appréhension. Mais du côté réel, l'appréhension n'existe jamais tout seul. Alors là, il y a donc un très gros problème, au problème de philosophie du vivant. Et donc, dans le lien exact qui existe entre l'appréhension et le jugement. On va revenir là-dessus, parce que ça, je crois que c'est très important. Et c'est à partir de l'appréhension que je vais être obligé de poser l'intellect agent. Alors, rappelez-vous que c'est là où on en est, où on en sera, parce qu'on va avoir un petit moment de congé. Je ne reprendrai les cours qu'à partir du 8. Je dois aller en Israël pendant 10 jours, je prierai pour vous, pèlerinage, retraite, normalement. Puis alors après, je dois prêcher la retraite de Jean Vanier. Ça coïncide comme ça, les deux choses, j'aurais pas voulu que ça coïncide comme ça. les deux choses se suivent. Ça fait jusqu'au 7 avril. Et c'est bon. Il va d'arrêter un petit peu, comme ça, attendre un temps de carême, c'est bon. Allez, bien, on reprendra après, on aura une semaine encore de cours, on reprend, réactuer, puis après sera la semaine sainte. Donc, vite. Donc, je serai là, évidemment, les deux dernières semaines.